Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Claire Servageant.
Une histoire de dette aujourd'hui ?
Oui, la dette dans la jungle. Nous sommes après l'accord des ministres des Finances de la zone euro qui ont accordé une prolongation de 4 mois de l'assistance financière à la Grèce.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Dette privée, dette publique.
Mettez-moi là-dessus. Là, accepté pour la somme de 3500 francs payables en un an. Et daté.
Privé, public, la dette, c'est d'abord un document archivé qui témoigne d'une promesse entre deux parties. L'histoire des monarchies européennes, cependant, est pleine de ce qu'on pourrait appeler des banqueroutes déguisées. Ensuite, on consolide comme on peut. On l'a encore vu après la Seconde Guerre mondiale. Les années qui ont suivi ont permis ce qu'on pourrait appeler un pardon de la dette. Aujourd'hui, la tendance serait plutôt à rendre la dette publique sacrée et prioritaire les remboursements la concernant. Dans cette perspective, elle se trouve hissée à la même hauteur morale que la dette privée, dont on veut qu'elle soit honorée et dont l'État se porte garant du XIIe siècle jusqu'en 1867 en France. La prison pour dette a existé. Néanmoins, l'Évangile selon saint Matthieu condamnait le prêteur sans pitié. Celui-ci, en prêtant de l'argent, offre en fait du temps au débiteur. Or, le temps ne se déroule jamais comme prévu. Peut-on exiger un remboursement s'il empêche l'autre de travailler, de vivre, de se remettre à égalité ? La dette privée elle-même est donc susceptible d'aménagements qui permettent au débiteur de montrer qu'il est capable de se reprendre. La dette publique ne le serait-elle pas aussi ?
La marge de l'histoire. France Inter. Jean Lebrun.
Christian Chavagneux, bonjour.
Bonjour.
C'est votre place, là, le samedi matin, face à la Seine.
Tout à fait, oui.
Hein, dans notre studio. Vous êtes ici aussi comme éditorialiste d'alternatives économiques. Nos amis d'alternatives économiques maintenant publient sur le net quelques articles chaque jour. Et vous participez aussi à Alter Eco Plus. J'aimerais aussi que vous rappeliez un passé plus coupable.
Oh, bah, j'ai travaillé 2 ans en Afrique pour l'Agence française de développement,
oui, au Ghana,
en Afrique de l'Ouest, et puis aussi pour une grande banque internationale à l'analyse des dettes des pays en voie de développement.
Ouais. Dans une banque au moment où le risque pays commençait à devenir...
Ah oui, c'était à la fin des années 80, on était en pleine crise de la dette et il a fallu trouver des solutions en interne dans les banques.
Père Chavagneux, est-ce que je peux vous demander d'abord de rappeler un point de vue moral ? On est dans l'Occident d'origine juive et chrétienne. Hein. On ne va pas parler de la civilisation marchande de l'islam, ni non plus des bouddhistes qui, souvent, accordent beaucoup d'intérêt au point de vue des marchands. Le Deutéronome recommandait aux créanciers de se reposer tous les 7 ans, de relâcher la pression. Qui raconte la parabole de l'Évangile selon saint Matthieu, vous ou moi ?
Non, c'est vous, c'est vous.
Ah oui. Donc, un maître convoque un serviteur qui lui doit 10 000 talents. Et le serviteur se roule à ses pieds, le maître remet la dette. Et le garçon qui vient ainsi d'être pardonné rencontre un compagnon et lui dit « Mais tu me dois 100 deniers !» Alors, il le tabasse et il le fait envoyer en prison. À la suite de quoi, le maître convoque celui des 10 000 talents. Lui exige de lui qu'il rembourse. Serviteur méchant, tu n'as pas eu pitié.
C'est la dette, vous venez de l'exprimer, c'est un contrat social. Ça a commencé même avant la monnaie. Antoine Gréber, l'anthropologue, nous explique dans un merveilleux ouvrage qui porte sur 5000 ans de dette que la dette, c'est un contrat social, c'est un échange de confiance entre des individus, certes, mais il y a toujours une souveraineté politique. Il faut qu'il y ait un garant politique qui soit au-dessus de ça. Il faut absolument respecter ces contrats de dette. Antoine Gréber nous rappelle que le premier mot qui veut dire dette veut dire aussi péché. Donc on doit absolument, quand on est un acteur privé, pouvoir rembourser ses dettes, soit aux autres marchands, soit au temple à l'époque, hein, qui faisait des prêts, des avances sur récolte, on va dire, aujourd'hui, et qui s'attachait vraiment très fortement à ce que ces dettes soient toujours remboursées. Mais, vous l'avez souligné, de temps en temps, une fois tous les 7 ans, une fois tous les 20 ans, il y a un jubilé qui fait que trop de dettes, ça tue les relations sociales. Pourquoi ? Parce que si vous ne pouvez pas rembourser, vous devez donner votre femme, vos enfants en échange. Et donc, ça tue toute relation sociale. Et pour éviter ça, eh bien, on efface les dettes.
Oui, mais dans dette, il y a péché. Le débiteur est menacé de péché s'il ne se remet pas à égalité, s'il ne rembourse pas ce qu'il doit, je reste toujours dans la tradition chrétienne, le créancier, lui aussi, peut être un pécheur, surtout s'il se comporte comme un usurier. Nous sommes ici dans l'Avare, Harpagon et Cléante, Michel Aumont et Francis Huster.
Comment, Pandare, c'est toi qui t'abandonnes à ces coupables extrémités?
Comment, mon père, c'est vous qui vous portez à ces honteuses actions?
C'est toi qui te veux ruiner par des emprunts si condamnables.
C'est vous qui cherchez à vous enrichir par des usures si criminelles.
Oses-tu bien, après ça, paraître devant moi?
Osez-vous bien, après cela, vous présenter aux yeux du monde?
N'as-tu point de honte, dis-moi, d'en venir à ces débauches-là, de te précipiter dans des dépenses effroyables?
Ne rougissez-vous point de déshonorer votre condition par les commerces que vous faites, de sacrifier gloire et réputation au désir insatiable d'entasser écu sur écu, et de renchérir en fait d'intérêt sur les plus infâmes subtilités qu'aient jamais inventées les plus célèbres usuriers!
Faut-toi de mes yeux, coquin! Faut-toi de mes yeux!
Qui est plus criminel, à votre avis? Ou celui qui achète un argent dont il a besoin? Ou celui qui vole un argent dont il n'a que faire?
Nous sommes toujours dans l'histoire de la dette privée. Celui qui achète un argent dont il a besoin, est-ce qu'il est plus coupable que celui qui vole un argent dont il n'a que faire?
Non, la dette, c'est le fonctionnement normal de l'économie. Les individus sont endettés pour pouvoir construire leur maison, leur famille. Les entreprises sont endettées pour pouvoir investir sur l'avenir. C'est le principe même qui a fait que le capitalisme occidental a pu se développer. Donc, les États s'endettent pour construire des routes, quelquefois pour faire la guerre historiquement. Donc, la dette, elle est tout à fait normale. Ce qui est anormal, c'est lorsque le pouvoir du créancier est trop fort et va tellement contraindre le débiteur que celui-ci va avoir soit sa famille, soit son entreprise, soit ses comptes publics complètement détériorés.
Si le créancier est suspect dans une certaine morale traditionnelle, c'est qu'il peut faire fonctionner la dette comme un piège.
Ah bah, tout à fait, le piège de la dette, c'est même une expression tout à fait connue depuis des centaines et des centaines d'années, qu'on retrouve dans la littérature, plus précisément dans la littérature britannique d'ailleurs, plus que dans la littérature française. Le piège, il est celui de, au moment où vous devez rembourser votre dette, vous n'avez pas assez de ressources, et donc vous devez réemprunter pour rembourser la dette passée. Si la situation perdure, alors c'est ce qu'on appelle une sorte d'effet boule de neige. La dette augmente, et vous ne pouvez plus la rembourser. Néanmoins, il faut toujours comprendre qu'on est sorti de ces crises de dette par un effacement partiel. Les créanciers ont dû y passer à un moment donné ou à un autre.
C'est ce qu'espère Madame Bovary, vous parlez de la littérature anglaise, mais la littérature française aussi offre de nombreux exemples quand elle se rend chez Monsieur Lheureux. Nous sommes dans une adaptation TV de Claude Barma. C'est Luce Ferrer qui joue Madame Bovary et Léonce Corne, le marchand d'étoffes.
Elle se présenta chez le marchand d'étoffes d'un air dégagé.
C'est une plaisanterie sans doute.
Ah non, j'aurais besoin d'argent.
Il ne m'est guère possible en ce moment de vous en donner. Vous m'obligeriez en patientant un peu.
Je ne peux plus attendre.
À moins
que vous ne préfériez amortir du même coup, je veux dire, partiellement, la dette de Monsieur Bovary.
Quelle dette? Mon mari vous doit aussi quelque chose?
Je l'ai vu dans de beaux états, le pauvre. C'est un brave garçon, bien que nous ayons eu ensemble des difficultés.
Avec lui? Mais à quel propos?
À propos de ce tout premier billet, vous savez bien. Celui que m'avait signé.
Oh, c'est vrai, je l'avais oublié celui-là.
À l'échéance, au bout de 3 mois, il a bien fallu que je le présente au docteur. Il a paru d'abord surpris, et du billet, et plus encore, de la facture supplémentaire.
Quelle facture?
Celle des articles de voyage.
Mon Dieu.
Il m'a signé une reconnaissance, et quelques jours après, il m'a demandé de lui avancer une petite somme, 50 écus. Bon, c'est bien que je l'ai fait avec plaisir.
Mais alors, combien devons-nous à présent?
Si vous n'avez pas d'espèces, vous avez du bien. À Barneville, cette closerie. À votre place, je me libérerai. Et peut-être aurai-je encore du surplus. Vous avez toujours la procuration?
Oui, mais où trouver un acquéreur?
M'en suis occupé déjà.
Combien croyez-vous qu'on puisse en obtenir?
Toujours assez pour me permettre d'attendre un peu.
Allez donc à Barneville, et faites pour le mieux.
Le soir même, en rentrant à Yonville, Félicité lui montra un papier gris.
Commandement de par le roi, de Madame Bovary. Dans 24 heures, pour tout délai, payer la somme de 8000 francs.
Voilà, le piège s'est refermé, et c'est l'État là qui apparaît. Monsieur Lheureux fait appel à la justice. Il y a jugement, il y a sommation, il y a commandement de payer.
Et je le disais dans le chapeau, il y a la prison pour dette à cette époque.
Si la dette est vraiment un contrat social qui permet aux gens d'échanger certificats de confiance, des promesses de remboursement, des paris possibles sur l'avenir, alors le contrat doit être respecté. Et l'État, à ce moment-là, est bien sûr le garant ultime et même violent, la prison. Hein. Pour les débiteurs qui ne remboursent pas, on n'est pas encore dans une période où, grâce à l'inflation, grâce à diverses techniques, les particuliers vont pouvoir échapper à la dette, alors que l'État, lui, ça fait des décennies qu'il réunit des sortes de grands jurés qui vont permettre à chaque fois d'éliminer soit une partie de la dette, soit de dire au créditeur, bah écoutez, si vous ne voulez pas éliminer, c'est vous qui irez en prison.
La prison pour dette, elle a duré encore plus longtemps, peut-être, en Angleterre qu'en France ?
Ah oui, dans la littérature britannique, jusqu'au début du XXe siècle, on trouve beaucoup d'exemples de prison pour dette et de situations assez dramatiques de gens qui finissent en prison.
Si la dette n'est pas réglée, on ne peut plus croire en l'État souverain. Oui, c'est le même phénomène que pour la monnaie.
Exactement. C'est le même phénomène que pour la monnaie. C'est le pouvoir politique qui est censé être garant de la qualité et surtout du respect des contrats entre débiteurs et créditeurs. Même si, encore une fois, jusqu'à la fin du 19e siècle, alors pas pour l'État français, mais beaucoup d'États, c'est vrai.
Oui, mais on va y venir à l'État. Mais
ils n'ont pas beaucoup respecté leurs propres promesses.
J'aimerais que vous nous expliquiez aussi que, entre la dette privée et la dette publique dont on parlera tout à l'heure, il y a une dette qui, dès la fin du 19e siècle, paraît inquiétante, c'est la dette des banques.
Ça, dès qu'on voit qu'il y a des crises financières importantes, et le 19e siècle est marqué par d'importantes crises financières, on s'aperçoit qu'il y a des bulles boursières, des bulles immobilières. À chaque fois qu'il y a eu des bulles, il y a d'abord eu des bulles de crédit. Une crise financière, c'est toujours une bulle de crédit qui a mal tourné. Et là, les dettes qui posent le plus de problèmes, ce sont les dettes des intermédiaires financiers. Les financiers se prêtent entre eux, les banquiers se prêtent entre eux, et quand ils se prêtent de l'argent entre eux, c'est pour prendre des paris spéculatifs et extrêmement forts. Et on en a des exemples avec aujourd'hui la crise des subprimes, mais ça démarre dès le 19e siècle.
Alors des exemples au 19e, à la fin du 19e.
Alors par exemple, il y a en Angleterre la fameuse banque Barings qui va pratiquement passer à l'as au moment où elle a fait des emprunts extrêmement importants. Elle parie sur les pays émergents de l'époque, que sont l'Argentine, les États-Unis. Elle a pris trop de paris. Bien avant, vous avez en France au 18e siècle John Law par exemple qui va créer une banque carrément, une banque qui va lui distribuer des crédits pour spéculer sur une grande entreprise dont il va jouer les actions à la hausse, qui va faire qu'on va avoir en France en même temps une bulle de crédit et ce que les historiens appellent la première bulle boursière de l'histoire, bulle boursière nourrie par une bulle bancaire. À chaque fois que la finance emprunte trop à la finance, ça finit toujours mal.
Donc de l'argent qui passe d'une poche à l'autre.
De l'argent qui passe d'une poche à l'autre, voire des crédits qui sont créés, puisque les banques ont ce pouvoir magnifique de créer de la monnaie, de créer du crédit. Le côté positif, c'est que le capitalisme va pouvoir se développer. Le côté négatif, c'est que quand cet argent, au lieu de servir l'économie réelle, sert l'économie financière, alors on finit dans la bulle financière et dans la crise.
On approche ainsi, insensiblement, Christian Chavagneux, du 20e siècle. Tout à l'heure, on parlera de la situation en Grèce, telle qu'elle se prolonge après l'accord assez intérimaire qui a été conclu hier entre l'Eurogroupe et le gouvernement grec. Voici la chanteuse qui vend peut-être le plus en Grèce. Vous êtes trop historien, vous me disiez, c'est Nana Mouskouri. Non, pas du tout, c'est Haris Alexiou. Et si elle vend beaucoup, c'est aussi parce que elle choisit des textes qui sont bien adaptés à la situation de sa clientèle. Elle dénonce ici le monde faux dans lequel la Grèce se trouve. La Grèce, dit-elle, est engagée dans une partie impossible. Tu as la bouche en cœur, monde faux. Tu m'as poussé à bout. Je n'ai pas d'autre solution que de demander du vin pour oublier, puisque mes amis eux-mêmes m'ont trahi.
Αντέχω πια, με κάνες κουρέλι, δεν σ' αντέχω πια. Φίλια έχεις μέλη κι αδική καρδιά. Φέρτε μου ένα σερίκο τσιγάρο, να φουμάρω στο χαρό, να δώσω τη φυξιά. Φέρτε μου κρασί για να ξεχάσω πως μου βάλα τη φίλη μου καρδιά. Και δουλειά
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternative économique, et on lit aussi dans les articles quotidiens que vous consacrez dans Alter plus Echo à la situation grecque. On y reviendra tout à l'heure dans le détail, mais que Tsipras, le chef du gouvernement grec, demande à rembourser sa dette en fonction de la croissance, et aussi en partie en dette perpétuelle. Alors il faut que vous nous expliquiez, pour qu'on comprenne bien notre chemin, que les balises soient bien posées, qu'est-ce que c'est que dette perpétuelle et qu'est-ce à quoi dette amortissable ?
Alors, la dette perpétuelle, c'est un vieux principe d'endettement des monarchies européennes. La Révolution française a mis fin à ça en France, mais ça a bien continué au XIXe siècle. Ce sont ce qu'on appelle des rentes. On trouve ça beaucoup chez Balzac. Hein. Est-ce qu'on est un détenteur de rente ou est-ce qu'on n'est pas un détenteur de rente ? On est un détenteur de rente à 100 000, de rente à 200 000. Ça vous classe dans la hiérarchie sociale. C'est-à-dire que c'est une dette dont on ne rembourse jamais le capital. On ne fait que payer les intérêts.
D'accord.
Et tant qu'il n'y a pas beaucoup d'inflation, tant que vous êtes un créditeur sérieux, mon Dieu, avoir une créance perpétuelle, mais c'est le bonheur de tout créancier, c'est le bonheur de tout banquier, hein. C'est d'arriver à prêter des gens de manière indéfinie et qu'on vous paye toujours les intérêts, bien évidemment. Si vous faites mal votre analyse de risque, eh ben, vous n'êtes pas bien remboursé. Si l'inflation explose, eh bien, vous êtes remboursé en monnaie de singe. Mais la dette perpétuelle, c'est ça, et elle est gagée sur plein de choses. Il y a même eu des jeunes filles suisses, les immortelles de Genève, qui étaient des jeunes filles dont on surveillait la santé, puisque le remboursement était lié à la santé de ces jeunes filles à Genève, et le remboursement de la France était lié à leur santé. Si elles mouraient jeune, une partie de la dette française s'effaçait.
C'est ce qu'on appelle des références exotiques. Maintenant, c'est le franc suisse et non plus la jeune fille suisse qui est la référence. Comment, on parle maintenant de la dette publique dans cette deuxième partie de l'émission, passe-t-on à la dette amortissable, il faut rembourser aussi le capital.
Voilà, après la Première Guerre mondiale, on s'aperçoit que l'inflation est vraiment extrêmement forte et se faire rembourser uniquement les intérêts, c'est se faire souvent rembourser en monnaie de singe. Donc les créanciers vont commencer à dire, écoutez, on est prêt à vous prêter, vous aux États, notamment en période de guerre, mais remboursez-nous aussi le capital. Donc on amortit à la fois le capital et les intérêts à partir de l'après-Première Guerre mondiale. Donc les États commencent à passer à d'autres types d'endettements qui sont des endettements où on rembourse le capital et on commence à pouvoir l'échanger sur un marché qui est de plus en plus internationalisé, la dette devient publique et internationale.
Après la Première Guerre mondiale, qui laisse les apparents vainqueurs européens très redevables vis-à-vis du vrai vainqueur américain, les premiers veulent récupérer beaucoup auprès du vaincu.
Ah, tout à l'Allemagne. Fait, ce sont les fameuses réparations. Hein. Si l'Allemagne rembourse la France et l'Angleterre, alors la France et l'Angleterre peuvent rembourser les États-Unis. C'est le chemin qui est fait. Malheureusement, comme Keynes l'avait déjà montré dès le début des années 20, les contraintes de remboursement qui sont imposées à l'Allemagne sont intenables pour la continuité de la situation du pays. On va avoir un plan, puis un deuxième plan de rééchelonnement, c'est-à-dire pour repousser le remboursement de la dette. Puis finalement, on va dire dans les années 30, non, allez, l'Allemagne ne remboursera plus du tout cette dette.
Les nazis ne remboursent pas à partir du moment où ils sont au pouvoir.
Exactement.
Alors après la Deuxième Guerre mondiale, notre thème un peu c'est le pardon de la dette en même temps que l'analyse de la dette. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'attitude est très différente. Vous expliquez dans cet article qui paraît dans Alternative économique que le compromis, après la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands l'ont eu.
Oui, tout à fait. En 1953, il y a une grande conférence de la dette qui est organisée à l'initiative des États-Unis et qui dit, écoutez, l'Allemagne doit se reconstruire, d'autant plus qu'il y a le méchant ours soviétique qui est en train de se développer. Il faut que les économies occidentales soient en bonne santé. Et donc, on va réunir une grande conférence sur la dette qui va dire deux choses. Un, on élimine la moitié de la dette allemande, donc c'est pas rien. Et d'un autre côté, on va lier les possibilités de remboursement, les contraintes de remboursement à ce que l'Allemagne peut dégager comme surplus extérieur. Il se trouve que l'Allemagne va devenir un champion des exportations, va gagner plein de devises, va pouvoir rembourser. Elle n'a pas utilisé cette clause, mais en tout cas, elle était prévue dans l'accord de 1953.
Et puis en 1990, un traité qui peut être considéré comme un traité de paix qui met fin à la Deuxième Guerre mondiale en permettant la réunification de l'Allemagne, laisse de côté la question des réparations qui demeurent, qu'on peut considérer comme effacées. Juste une parenthèse là, Christian Chavagneux. L'accord de Londres dont vous parlez en 1947, si je ne m'abuse, il a été signé aussi par la Grèce. Et voilà que la Grèce, aujourd'hui, réclame les réparations et puis le remboursement d'un prêt forcé qu'au moment de l'occupation allemande, Athènes a été obligée de consentir au Troisième Reich.
La banque centrale grecque était obligée dans,
position,
oui, c'est vrai, était obligée dans les années 40 de faire un prêt forcé à l'Allemagne nazie. Et donc les Grecs disent aujourd'hui, l'accord de 53 a réglé les problèmes de dette publique, mais pas ce problème spécifique de financement de l'Allemagne nazie. Et donc vous nous devez 10 milliards d'euros, ce à quoi les Allemands ont répondu, vous pourrez toujours aller vous faire voir.
Et le doyen du Parlement européen, Manolis Glezos, qui est le Grec qui a arraché le drapeau nazi en 1941 sur l'Acropole, tous les jours réclame à Strasbourg et à Bruxelles, réparation. On pourrait quand même lui rappeler Matthieu 18, vous savez, la parabole, le créancier impitoyable qui... Après la Deuxième Guerre mondiale, expliquez-vous, le compromis, les Anglais l'ont eu.
Oui, tout à fait. En 1946, les Anglais disent, écoutez, on n'a pas de quoi rembourser, donc laissez-nous la possibilité, les années où ça ne va pas, de ne pas, vous rembourser, vous, nos créanciers. Et puis en 1900, donc on est en 46, en 56, ils disent, ben voilà, là, on est 10 ans après, on veut utiliser cette possibilité. Personne ne sait comment on peut vraiment calculer si les Anglais ne peuvent pas rembourser ou pas. Les Américains disent, écoutez, on va vous faire un truc très très simple. Vous avez 7 fois, dans les années qui viennent, 7 fois la possibilité de ne pas rembourser vos échéances en capital et en intérêt. Faites ce que vous voulez, on vous dote les 7 possibilités. Et les Anglais vont utiliser 6 fois cette possibilité de ne pas rembourser dans les années qui vont venir à partir de 1957.
À ceux qui sont fatigués par les références à Saint-Mathieu, on pourrait faire une référence au jeu de golf, de tennis, au croquet aussi.
Oui, tout à fait.
Il y a une clause qui...
Il y a une clause qui s'appelle la bisque clause. Alors, ça n'a rien à voir avec la soupe de homard, mais ça a plutôt à voir au cricket, au tennis. Quand vous avez un joueur qui est un petit peu plus faible, on lui donne un avantage. Et bien là, lorsque vous avez un débiteur qui est un petit peu plus faible, on lui donne un avantage. Cette fameuse bisque clause négociée par Keynes auprès des États-Unis dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Alors, on continue à avancer à grands pas dans l'histoire de la dette publique et... Maintenant, j'ai fait appel à votre expérience d'ex-spécialiste du développement au Ghana. C'était dans les années 80, mais c'est en fait dès la fin des années 50 et dès le début des années 60, les indépendances, que se multiplient des prêts aux pays en développement. Ou aux pays comme dit sous-développés, on disait à l'époque. Alors, dans ma tête, dans mon souvenir, moi, il y a un grand programme d'aide au développement de la Banque mondiale et d'autres types de banques de développement avec des prêts apparemment favorables. Vous rembourserez sur 40 ans le remboursement, la dette amortissable sur le capital, on verra ça plus
10
tard,
ans de grâce, 10 ans, remboursement.
Oui. Oui, mais il n'y avait pas que ça.
Non, ça, l'apport public a été relativement faible, surtout à partir des années 70. Il faut savoir que les Anglais voient très très bien à la fin des années 50 que le dollar va dominer l'économie mondiale et pas la livre sterling. Donc ils se disent, il faut que Londres soit l'endroit où les dollars qui circulent en dehors des États-Unis, eh bien ils circulent chez nous. Et à partir des années 70, ce marché-là de dollars qui circulent en dehors des États-Unis va exploser avec les pétrodollars que vont gagner les monarchies du Golfe. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Les banquiers disent, regardez, vous avez plein de pays en voie de développement qui demandent qu'à emprunter et on va leur prêter beaucoup, beaucoup trop d'argent.
Première grande crise 82, des mécanismes de remise de dette, il s'agit là de dette publique. Oui. Alors on se souvient de l'écho qu'a eu dans un film d'Abderrahmane Sissoko, bien connu maintenant, Bamako, nous sommes en 2006, une remise de dette au Mali, nous sommes dans une cour de maison, les gens vaquent à leurs occupations, il y a un avocat du FMI, il y a Aminata Traoré, grande figure altermondialiste du Mali, et puis on se dispute sur le rôle exact du FMI.
J'ai entendu, par exemple, Maître Tal donner des chiffres, et vous avez approuvé ces chiffres. Quels chiffres? Excellente consoeur, vous avez dit tout à l'heure, on nous fait cadeau de 54 milliards, et en réalité, nous avons à rembourser 436 milliards. Savez-vous, madame, le programme pour le Mali et l'abandon de 1 milliard 42 millions de francs CFA qui représente 60% de la dette. Avez-vous connaissance de cette information?
J'ai connaissance de cette supercherie. Qui a été décidé à Glen Eagles lors du sommet du G8 dans le cadre d'une prétendue annulation de la dette. Premièrement, nous considérons, compte tenu des taux d'intérêt pratiqués, que l'Afrique a fini de rembourser cette dette. Elle ne doit absolument rien à ses institutions. Deuxièmement, nous disons que la qualité désastreuse des politiques économiques dans lesquelles c'est l'argent emprunté a été investi, qui n'a pas profité aux peuples et maliens et africains, est plus un préjudice qui ne nécessitait même pas cette bonne action de la part du G8. Mais je veux surtout vous dire que ce 1,42 milliard, cette décision a plus contribué à soigner l'image du G8 qu'à servir l'Afrique.
Christian Chavagneux.
On est dans les années 70, il y a beaucoup de prêts qui sont faits aux pays latino-américains, aux pays africains, avec des taux d'intérêt extrêmement faibles. Et puis les États-Unis décident à la fin des années 70 de lutter contre l'inflation. Ils vont remonter les taux d'intérêt de manière extrêmement violente. C'est Paul Volcker, le conseiller actuel de Barack Obama. Tous les taux d'intérêt remontent et les pays africains, les pays latino-américains se retrouvent dans la possibilité de rembourser leurs dettes. On commence par dire, c'est pas grave, vous n'allez pas rembourser dans les 5 années qui viennent, mais dans les 10, 15 années qui viennent. Et puis, tiens, nous, le FMI, Banque mondiale, on va vous prêter de l'argent pour rembourser les banques. Et donc là, on voit dans ce film que c'est de l'argent, c'est du new money, c'est de l'argent, c'est de la dette encore qui revient, qui s'étale de plus en plus dans le temps. Contre quoi ? Contre des politiques d'austérité extrêmement fortes. C'est exactement le cas de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal.
L'ex-directeur du développement Europe du FMI, le mois dernier, mais il n'est plus en poste, a dit qu'on aurait pu réduire de moitié la dette grecque. Mais le FMI a fait le choix de penser que la dette grecque était soutenable. Et puis, a dit, il y a un risque systémique si on n'intervient pas en Grèce.
Il a tout à fait raison. La grande erreur des Européens, ça a été de ne pas annuler tout de suite une grande partie de la dette grecque. Il fallait absolument effacer une partie de la dette. On le voit, les conséquences sociales ont été absolument dramatiques. 25% de chute du PIB, c'est comme si on perdait des centaines de milliards d'euros en France. C'est absolument dramatique. On voit aujourd'hui que M. Tsipras a réussi à négocier une aide humanitaire. Vous vous rendez compte, on est dans un programme d'aide de l'Europe, on est obligé de négocier une aide humanitaire aux Grecs.
Enfin, a réussi à négocier. Il accepte une très grande partie des réformes que ses prédécesseurs avaient lancées. Il corrige relativement peu.
En même temps, Jean Lebrun, il pose une question extrêmement forte et les Européens ont répondu oui à sa question. Est-ce qu'on peut avoir une maîtrise des dettes publiques en Europe sans passer par une politique d'austérité mortifère pendant des dizaines d'années ? La réponse des Européens, c'est oui. Vous allez avoir des excédents primaires. Là, c'est les excédents budgétaires une fois qu'on enlève le paiement de la dette, eh bien, ils étaient extrêmement forts. Vous allez pouvoir faire des excédents beaucoup plus petits. Vous allez pouvoir réformer l'État. C'est la vraie réforme structurelle. C'est ça qu'ont négocié les Grecs. On va vous réformer l'État. Du côté des dépenses, on va arrêter les dépenses de corruption. Du côté des recettes, on va vraiment aller chercher les impôts. On va vous construire un vrai système fiscal. Et c'est bien ça le vrai principe de remboursement de la dette publique. Si vous avez un vrai système fiscal efficace, vous en sortirez toujours de vos problèmes de dette. Et c'est ça que les Grecs ont promis.
Merci à vous, Christian Chavagneux. On vous retrouve samedi à la même place, un peu plus tôt le matin. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, la préparation Frédéric Martin, Franck Olivard, Ilinka Negulesco, Martin Cellier, à la technique Alexandre Abergel. Alors j'ai beaucoup vanté les mérites d'Alter Echo Plus et vous nous annoncez qu'il faut se déconnecter, Mathieu Vidard.
Oui Jean, on va faire une cure de déconnexion numérique dans un instant.
Et ça dure combien de temps ?
90 jours pour notre invité.
Ah, et vous, beaucoup moins, je ne sais pas si on va pouvoir...
Moi, je n'oserais pas le faire.
Se passer des connexions aussi longtemps. Merci à vous.